D'accord. Alors, Denis et Laurence, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qui se passe en ce moment-là à Sanofi? On en est où?
Alors, la période d'information-consultation, en fait, est arrivée à son terme. La nouvelle loi dite de sécurisation de l'emploi préconisait 4 mois d'information-consultation. Donc, cette période s'est achevée lundi, le 17. En ce qui concerne le site de Toulouse, le comité d'établissement a été réuni jeudi et vendredi de la semaine dernière, donc les 13 et 14. Et la décision a été rendue. En fait, le comité d'établissement, à l'unanimité, donc l'ensemble des élus, a fini la séance en disant que les élus du CE de Toulouse n'étaient pas en capacité d'émettre un avis éclairé et soutenaient le vote d'une délibération. Donc on a voté en fait le fait de donner pouvoir à la secrétaire du comité d'établissement d'aller en justice si la décision de la directe était de valider ce plan. Donc aujourd'hui, le comité d'établissement de Toulouse, par ce vote de l'ensemble des élus, s'est donné la possibilité d'agir en justice si tel était le cas et si c'était la volonté de tous.
Et la
Et
réponse.
pardon, oui.
Allez-y, allez-y, allez-y.
Et donc aujourd'hui, on en est à ce stade-là. On est dans cette phase en fait d'attente de la validation ou pas par la directe de l'Essonne, puisque le plan qui concerne le site de Toulouse est inclus 5 sites au niveau de la R&D, au niveau de la France. Et donc on dépend de la directe de l'Essonne. Et donc c'est elle qui donnera la validation ou pas. Donc on est dans cette phase d'attente qui doit durer 15 jours.
Et la réponse aura lieu quand, du coup?
Donc la réponse devrait intervenir au plus tard le 10 mars. Donc la direction a communiqué en interne sur le fait que, après la réponse de la directe, si elle était positive, le plan se déroulerait à partir du 17. Donc il se donne une semaine de mise en route par rapport à ce plan.
Est-ce que la directe va. Est-ce qu'il y a des chances que ce plan soit effectivement approuvé par la directe, donc ça veut dire l'inspection du travail?
Alors en fait, nous nous sommes déplacés pour aller discuter avec la directe de l'Essonne il y a 15 jours de cela, pour voir un petit peu quelle était leur position et nous amener des éléments supplémentaires par rapport aux événements et au déroulé de cette information-consultation. Clairement, on a un gros handicap, c'est que un accord a été signé sur les mesures d'accompagnement par la CFTC et la CFDT. Ces mesures d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est un peu technique, le livre 1. Et le plan de réorganisation, c'est ce qu'on appelle le livre 2. Mais même si ces deux documents sont séparés, on comprend bien qu'ils sont intimement liés.
Ouais, si on signe là, en gros, on signe le plan, quoi.
Et voilà, c'est un peu ce que nous, on a dénoncé au moment de cette signature. C'est que certains syndicats ont dit on a signé parce que même si on n'est pas d'accord avec ce plan, on estime que les mesures d'accompagnement vont permettre pour certains salariés de passer cette phase difficile un petit peu mieux. Sauf que en signant ça, on accepte indirectement, mais on accepte le plan de réorganisation. Donc aujourd'hui, la directe, c'est ce qu'elle nous rétorque quand on va la rencontrer, c'est peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais en tous les cas, il y a une signature d'un accord. Et vous comprenez bien que dans la situation actuelle du ministère du Travail, et le cadre de cette nouvelle loi, à partir du moment où il y a un accord, la directe, on va dire, est dans des dispositions un peu particulières et elle dit, ben, les salariés, s'ils acceptent par cet intermédiaire des signatures syndicales, c'est que ben, pourquoi on ne validerait pas ce plan?
La nouvelle loi dont vous parlez, c'est l'ANI, c'est l'accord national
Voilà, c'est la
interprofessionnel.
transposition dans la loi de l'ANI qui aujourd'hui est en vigueur.
Sur ce point particulier de la signature donc d'un accord sur le livre 1,
Oui.
ce qu'il faut savoir, c'est que cette signature, c'est prévu donc par la loi, en cas de signature, la directe n'a plus la même possibilité. S'il n'y a pas de signature, la directe fait une homologation du PSE, c'est-à-dire que elle va regarder dans les détails à l'intérieur du projet donc de PSE. Des éléments factuels, les éléments économiques, etc.
PSE, pour rappeler pour les auditeurs, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est le plan social en fait.
Le plan social, voilà, tout à fait. Dans le cas où il y a un accord, ce n'est plus une homologation, mais c'est une validation.
Ouais, d'accord, donc il y a moins de contrôle.
C'est très formel, quoi. C'est-à-dire, on va regarder si ça s'est fait dans les temps impartis, si l'ensemble des organisations syndicales, le comité d'entreprise, les CCE, CE ont été consultés de la bonne manière, etc. etc. Mais on ne rentre plus, je dirais, dans, ou beaucoup moins dans le cœur du PSE. Et donc, de fait, c'est beaucoup de choses quoi, qui ne sont plus accessibles au niveau de la directe en termes de, je dirais, de jugement de la situation. Et elle est, son regard est limité.
Comment se sentent les salariés sur le site toulousain après toutes ces annonces et comment ils se sentent aujourd'hui ?
Alors, c'est un peu compliqué à exposer dans le sens où un certain nombre d'éléments ne sont pas forcément encore connus de la part des salariés. Donc, par exemple, hier, on a tenu une AG Sud-Chimie où on a tenu à informer les salariés sur un certain nombre d'événements qui allaient se dérouler et la manière dont la direction voulait que ça se déroule. Et là, bien évidemment, un certain nombre de salariés ont découvert beaucoup de choses.
Ah oui, ils n'étaient même pas informés en fait, de l'ensemble des événements.
Non, puisqu'en fait, tant qu'il y a une information consultation, la direction ne peut pas communiquer aux salariés, hein, c'est la loi. C'est ainsi fait, c'est d'abord les prérogatives des élus et des représentants des salariés. Sauf que, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué au cours de ces 4 mois. Il y a eu des négociations sur justement ces mesures d'accompagnement. Et sur ce déroulement et le cadencement de la mise en œuvre donc de ce PSE, les salariés n'avaient pas vraiment d'informations et pas grand-chose n'avait filtré.
Et les élus ne pouvaient pas faire passer les infos, je
alors, ben voilà, la question est pourquoi un certain nombre de personnes qui étaient aux négociations et qui avaient donc des informations n'ont pas communiqué aux salariés ou pas suffisamment, on va dire. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. C'est que, voilà, l'information consultation est finie, on est dans cette phase d'attente. Les salariés, en définitive, n'ont pas forcément toutes les cartes en main pour pouvoir avoir un jugement éclairé. Hein. C'est aussi pour ça que le comité d'établissement, la semaine dernière, a fini sur cet avis-là. Et ils doivent pour autant se positionner aujourd'hui dans un PSE avec une phase de volontariat qui va être compliquée, en fait, hein, pour les salariés à gérer au niveau des choix, parce que sur Toulouse, c'est quand même ça aussi qui est important de dire aux auditeurs, sur Toulouse, l'avis du site de Sanofi à Toulouse n'est pas fini, en tous les cas on l'espère, mais elle est encore en péril, très fortement en péril, car aujourd'hui on n'a aucune visibilité sur les fameuses 3 plateformes qui doivent le constituer, la plateforme de recherche, une plateforme technologique et une plateforme support. Aujourd'hui, la direction refuse de nous communiquer un certain nombre d'éléments de fonctionnement de ces plateformes. Alors, dans un premier temps, au sein de Sanofi, puisque la direction s'est engagée à soutenir ces plateformes au moins 5 ans et qu'au cours de ces 5 ans, il y ait une autonomisation des plateformes. Mais on ne sait pas comment on va fonctionner.
Alors, juste pour rappeler pour les auditeurs qui sont peut-être pas forcément au fait du détail du plan Sanofi, donc en fait l'idée c'est que le site toulousain ne disparaît pas en tant que tel, mais est éclaté sur différentes plateformes, dont certaines sont à Toulouse. C'est un peu ça l'idée.
Exactement, c'est exactement ça. Il y a 3 plateformes. Donc ce plan en fait supprime 40% des effectifs quand même du site, hein, c'est la première chose à dire. On va voir disparaître 40% des emplois. Sur le site, vont rester 360 personnes.
Donc ça fait près de plus de 300 emplois, quoi.
Voilà, répartis dans 3 plateformes, une de 90 personnes, une de 40 et une de 230. J'ai arrondi un peu les chiffres.
Ouais, ouais.
Mais ces plateformes, en fait, on ne connaît pas leur fonctionnement, on ne connaît pas leur pérennité, on ne connaît pas les moyens que Sanofi va mettre en œuvre pour maintenir des activités. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations. Et on sait qu'à terme, ces plateformes devront être autonomes par rapport à Sanofi. Donc les gens qui vont être embarqués, je vais dire ça comme ça, dans cette aventure des plateformes, aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils qui va advenir de leur avenir professionnel d'ici 5 ans. Donc aujourd'hui, on a des CDI qui sont transformés en CDD de maximum 5 ans.
Est-il possible que, que Sanofi prévoit de, que ces plateformes soient revendues à, d'autres, à des concurrents ou à d'autres personnes?
Ça, ça fait partie justement des questionnements. On n'en sait rien aujourd'hui, en fait. Ce qui est présenté, c'est effectivement, dans l'autonomisation, c'est qu'on va vers la création de spin-off, start-up, des choses comme ça. Mais, in fine, on ne sait pas quelle sera la structure juridique de cette plateforme-là. Et on ne connaît pas le, leur avenir, ça c'est certain. Mais même à l'intérieur des plateformes, je dirais en termes d'activité, il y a encore beaucoup de questionnements sur quel type de profession il sera nécessaire ou pas, l'articulation entre les différentes plateformes. Et il y a vraiment, vraiment, on est vraiment au tout début du processus et on demande aux salariés de s'engager sur ces plateformes ou pas, sans avoir une vision claire de ce que sera l'avenir de ces plateformes-là.
Oui, c'est plus,
je dirais même du projet lui-même. Quoi. Oui.
Et ils avancent avec les yeux bandés.
Voilà, c'est un engagement à l'aveugle et c'est un engagement qui est en plus très périlleux parce que c'est ce qu'on a expliqué hier aux salariés qui a un peu remué certaines personnes, c'est que si vous faites partie de ces gens qui vont coller sur des postes qui vont être, alors on appelle ça dans ce plan, réaffectés, en fait, vous n'avez aucune possibilité de refuser cette réaffectation.
C'est les offres d'emploi, en gros, où tu acceptes, où tu... En gros, si je comprends bien, en gros, il y a 4 salariés sur 10 qui vont devoir partir en allant dans un poste qu'ils ne pourront pas choisir, et sinon les autres qui vont rester vont être sur des plateformes dont on ne sait pas la structure, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir.
C'est ça. Et le PSE leur est fermé, c'est-à-dire que c'est voilà, vous êtes très content, on vous garde, vous êtes réaffecté aux plateformes, donc vous n'avez aucun élément sur l'avenir, mais vous ne pouvez postuler à aucune des possibilités du PSE, puisque on considère que c'est un glissement dans une structure qui reste aujourd'hui Sanofi.
Et donc du coup, ce serait ils n'auraient pas droit aux indemnités de départ, ils n'auraient pas droit au reclassement et tout le dispositif que peut avoir un groupe comme Sanofi.
Exactement.
Là où dans les plateformes, il n'y a plus aucune protection, quoi. C'est ça ?
C'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est sûr que du coup, c'est un engagement vraiment à l'aveugle.
Ils savent même pas s'ils gardent le même poste ou pas.
Non, aujourd'hui...
Ou même s'ils restent dans leur spécialité ou pas.
Non, puisqu'aujourd'hui, en fait, avec le système d'un PSE, ce qui est quelque part tout à fait logique, des critères d'ordre vont être appliqués et donc vont être versés dans ces plateformes les gens qui ont, a priori, des critères d'ordre prioritaires, puisque ce sont des réaffectations. Donc, il y a un certain nombre de mouvements qui vont avoir lieu. Et des gens qui sont aujourd'hui dans un service X peuvent très bien atterrir dans une plateforme qui n'était pas, on va dire, à la base issue de leur service. Donc effectivement, ça c'est, un, c'est délicat pour les salariés parce qu'ils vont se retrouver dans des positions difficiles à gérer. Et c'est aussi, on le reconnaît, tout à fait délicat pour les porteurs de projets qui du coup vont partir avec des équipes qui n'ont pas forcément les compétences ou les qualifications sur des postes qui aujourd'hui tournent tout à fait parfaitement, quoi. Même si tout ça se fait dans les mêmes catégories d'emplois, un biologiste, on va dire, dans un service X ne fait pas forcément les mêmes technologies ou les mêmes expérimentations qu'un biologiste dans le service Y.
Est-ce que ça fait un an et demi maintenant que la mobilisation... Enfin voilà, c'est une longue mobilisation à Sanofi. Et il faut rappeler quand même que c'est une fermeture pour rien, ou sinon que pour les actionnaires, puisque le site, je lis là dans l'Humanité, c'était Thierry Baudin de la CGT qui disait que si on reste pragmatique, l'entreprise se porte très bien. Je vois que le chiffre d'affaires est de 34,9 milliards d'euros en 2012, que la croissance est en hausse de 6% au quatrième trimestre 2013. Donc tout va bien, donc c'est vraiment un plan social juste pour les financiers. Il n'y a même pas de justification économique, si je comprends bien.
Tout à fait. Alors là, si vous voulez, par rapport à ça, c'est quand il y a eu l'annonce donc, de la volonté de Sanofi de se désengager du site de Toulouse et donc d'amener cette réorganisation au niveau de la R&D, ça là, c'était en 2012, en juillet 2012, et il y a eu une levée de boucliers générale de l'ensemble des organisations syndicales qui justement s'appuyaient sur le constat que vous faites, qui est réel, d'une entreprise, d'un groupe comme Sanofi, qui est quand même le troisième groupe mondial au niveau des Big Pharma, qui, cette année, qui a été une année difficile, comme ils disent, et qui se termine avec un résultat net. Alors, le résultat net au niveau du bilan, c'est quoi? C'est les dépenses moins les recettes qui touchent les 7 milliards d'euros. Les années précédentes, c'était 8 milliards. Donc, on voit un peu la difficulté, soi-disant la difficulté économique dans laquelle se trouve ce groupe-là. Il n'y a aucune raison pour que le plan tel qu'il est prévu aujourd'hui soit appliqué. Il n'y a pas de raison économique. Ce sont purement et simplement des raisons financières. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui, effectivement, ont comme horizon les dividendes versés aux actionnaires, la valeur de l'action en bourse, mais ne se projettent pas dans une stratégie industrielle ou économique. Ça, c'est clair.
Est-ce que vous avez une idée des montants versés par action l'année dernière?
Alors oui, on les a par là, mais...
Aujourd'hui, enfin cette année, c'est 55% du bénéfice qui est reversé aux actionnaires.
Ah oui.
C'est un taux qui est énorme. On est, là, je crois, une des seules entreprises du CAC 40 à avoir ce taux de reversement de dividendes aux actionnaires. Donc je n'ai pas le chiffre là sous les yeux. Que vous nous demandez,
oui.
Mais c'est une des entreprises qui, de toute manière, depuis plus de 20 ans, est toujours en accroissement du reversement du taux de dividende à ses actionnaires. On est la seule entreprise du CAC 40 dans cette configuration-là.
J'ai les chiffres là, justement. J'ai dans l'humain le même article qui disait qu'en 2004, le dividende par action en euros, c'était 1,20 euros. Et ça a monté continuellement. 2,40 en 2009, 2,77 en 2012 et 2,80 en 2013. Donc ça, c'est par action. Chaque action rapporte ça. Enfin, c'est gigantesque.
Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bénéfice net par action, c'est-à-dire en fait les résultats nets qui est fait, hein, cette année, il a diminué. C'est-à-dire qu'on a fait moins de bénéfices que les années précédentes. Et donc, du coup, le bénéfice qui est ramené par action diminue. Par contre, le dividende, c'est-à-dire l'argent qui est versé par action, lui, continue d'augmenter. Alors, par là, on voit bien qu'il y a vraiment un choix qui est fait de privilégier l'actionnaire, je dirais, sur l'avenir même de l'entreprise. Quand on a des bénéfices qui diminuent, eh bien, on continue malgré tout d'investir, on continue malgré tout d'accroître son patrimoine, etc. Là, non, le choix, il est très clairement fait de dire, on va continuer à verser des dividendes aux actionnaires, ce faisant, puisque les revenus diminuent légèrement, c'est tout est relatif, et on passe de 8 milliards à 7 milliards quand même, je répète.
Oui, ça reste honorable quand même.
Oui, c'est vraiment honorable. Mais on fait quand même le choix, donc, par ailleurs, de verser ces dividendes, cet accroissement de dividendes aux actionnaires. Et donc l'argent, il faut bien le chercher ailleurs. On va le chercher où? Eh bien, justement, dans la recherche, dans les investissements, etc. etc. Et c'est le désengagement aujourd'hui qu'on voit de Toulouse, enfin de Sanofi sur Toulouse, la raison première, elle est là.
Je voulais vous poser une question justement sur le quel est le pourcentage des bénéfices qui vont en recherche-développement.
Alors,
si vous l'avez. Hein.
J'ai plus les chiffres en tête, donc je préfère ne pas les donner parce que je dirais des bêtises. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, ils sont en régression par rapport aux années précédentes.
Ouais, c'est 14,1%.
14, oui. Voilà. Ce qui nous semblait, mais on n'était pas sûr, donc on n'était pas sûr. Mais bon, si vous avez les papiers devant les yeux.
On a préparé le truc.
Non, effectivement, c'est 14%, c'est en diminution. Et on est une des boîtes des Big Pharma qui diminuons le plus nos investissements en R&D par rapport aux autres stratégies. Sachant que toutes les Big Pharma aujourd'hui, ont les mêmes stratégies. Donc, il n'y a pas trop de distinguo sur les Big Pharma. Je dis bien Big Pharma.
Il y en a juste une ou deux. On ne va pas les citer là, parce qu'on est suisse et une américaine, qui font un choix stratégique inverse. c'est-à-dire de renforcer au contraire la recherche en interne, mais elles sont minoritaires, sur, ça c'est clair.
Mais justement, vous parlez de Big Pharma, c'est des... effectivement Sanofi, c'est une multinationale, c'est un groupe mondial, et je me demandais comment on fait pour contrer la logique financière de ce groupe mondial quand on est syndicaliste à Toulouse, dans un site toulousain.
Bah, on essaie de le faire, je dirais, on essaie de le faire depuis un an et demi, d'abord directement au niveau de nos collègues, en leur expliquant un peu... ce qui se passe réellement au niveau de notre groupe, hein. Donc en reprenant les explications qu'on a pu vous faire là maintenant, et en les reprenant dans les discussions, je dirais, individuelles entre salariés, dans les AG, etc. Dans les discussions aussi entre organisations syndicales, on le fait, on essaye de le faire aussi par les médias, et merci aujourd'hui de nous recevoir, justement en essayant de porter une parole qui est différente quand même de celle de notre direction. Mais c'est vrai que nos moyens sont limités par rapport à ce qu'on a en face, hein, qui est énorme, quoi. Enfin, je veux dire. Et en plus aussi, il y a des questions qui s'opposent, je dirais, après, en termes de gouvernance et de politique, puisque on s'est retourné vers nos élus, et on est même allé jusqu'au ministre, les élus locaux et le ministre. En espérant un soutien qu'il a, peut varier suivant les positionnements des uns et des autres.
Et justement, y a pas de pour l'instant, vous n'avez pas eu d'issue avec le fameux ministère du redressement productif ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu d'avancée de ce côté-là, d'aide qui pourrait...
Alors, par rapport au ministère du redressement productif et de M. Montebourg, voilà... On l'a bien, il s'est exprimé à plusieurs reprises dans les médias par rapport à ça. Lui, il estime avoir fait son job. Il estime qu'il a missionné une mission ministérielle qui était menée par M. Saint-Ouille, qui a rendu un rapport et que, voilà, lui, il ne pouvait pas faire plus et que pour lui, le sujet était réglé. Ça, c'était sa première intervention. Et que la deuxième, hein, c'est lorsque le 14 janvier, il y a eu signature du protocole... du projet d'accord sur les mesures d'accompagnement. Il a bien dit à l'Assemblée nationale qu'il était satisfait du dialogue social qu'il pouvait y avoir au niveau de Sanofi. La preuve, on arrivait à la signature d'un accord. Sauf que, soyons clairs, le dialogue social, il y en a très peu. Les discussions sont très tendues avec la direction. Les syndicats, nous, on est sud-chimie, mais d'autres ont porté des choses en négociation, puisque nous n'y étions pas, nous ne sommes pas représentatifs au niveau de la R&D.
Oui, c'est ça, c'est que le sud-chimie n'est pas représentatif au niveau national.
Non, voilà.
Donc vous n'avez pas participé aux réunions
de Toulouse.
D'accord.
Mais voilà, les négociations ont eu lieu, les syndicats représentatifs ont demandé un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas obtenues. La direction a été fermée du début à la fin de ces négociations. Les avancées sur les mesures d'accompagnement sont tout de même très minimes, n'en déplaise aux syndicats qui ont négocié, même si pour certains c'était important de les avoir, c'est quand même très minime. Alors c'est vrai qu'on est chez Sanofi, que probablement les chèques seront un petit peu plus gros qu'ailleurs parce qu'on a des bonnes rémunérations. On s'adresse à la recherche et développement. C'est vrai qu'il y a des niveaux de qualification très élevés et que les rémunérations sont tout à fait plus qu'honorables. Mais on rentre dans des critères de PSE, on va dire, assez classiques. Donc il n'y a pas eu d'avancée plus que ça. Le dialogue social, donc, comme je vous le disais, n'est pas bon. Les réunions sont toujours très, très, très tendues avec la direction. Et on ne peut pas se pavoiser de cela. Voilà, donc la position du MRP, hein, du ministère du redressement productif, c'est celle-là. On a fait une mission, un accord a été signé, on est très contents. Vous voyez bien que ce nouveau dispositif de l'intégration de l'ANI dans la loi, ça fonctionne, parce que c'est quand même ce qu'on a entendu. Donc pour les salariés qui sont sur le site, c'est des choses un petit peu difficiles à entendre.
Et qu'est-ce que, du coup, dernière question, qu'est-ce que là on peut faire aujourd'hui? Est-ce que c'est une grève? Est-ce que c'est... quels sont les moyens d'action? Qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui pour vous aider, quoi?
Aujourd'hui, clairement, nous, c'est les questions qu'on est en train de se poser. c'est vrai qu'on a cette phase d'attente avec le retour de la directe où les gens sont un petit peu dans l'expectative là, mais clairement nous on va utiliser ce temps-là pour se poser ces questions. Comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait de la délibération qui a été votée en CE sur Toulouse, voilà, comment on va rebondir après le rendu de la directe, parce qu'en fait c'est là que les choses vont se jouer. C'est un, continuer à dire que le site de Toulouse n'est pas sauvé, contrairement à ce qu'on a pu entendre, et le faire savoir, parce que ça c'est important. Continuer à peser au niveau des instances représentatives du personnel, hein, puisque ça fait partie des moyens qu'on a, même si ce sont des moyens très limités aujourd'hui, mais il faut quand même les utiliser. Et puis on reviendra vers les salariés. De toute manière, on l'a fait hier, hein, il y a eu une AG qui a été faite, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on maintienne. Et hier, on a fini l'AG là-dessus en disant que le collectif était encore de mise, car même s'il n'y avait que 360 personnes qui allaient rester sur ce site à Toulouse si le plan se déroulait, aujourd'hui, on ne sait pas dans quelles conditions de travail et quelles missions elles vont avoir. Et donc, il faut à tout prix garantir au moins... Et donc, le travail qui va suivre, ça va être celui-là.
Est-ce que vous avez pris contact avec la fac de pharmacie? Parce que c'est quand même une des grandes facs de Toulouse. Et si Sanofi disparaît à l'horizon, les labos disparaissent sur Toulouse, quelque part, c'est l'emploi des futurs pharmaciens qui risque de disparaître. D'une part, et puis est-ce que vous pensez offrir une scie au conseil d'administration, parce qu'ici la branche sur laquelle ils sont assis?
J'ai pas compris la dernière partie de votre question.
Est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait offrir une scie au conseil d'administration, parce qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis?
Alors c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps, qu'on dit depuis juillet 2012, qu'on a répété même au plus haut niveau de l'État, et qui est reconnu, hein, Sanofi, c'est quand même une entreprise stratégique pour la France, on nous l'a dit comme ça, mais aujourd'hui on voit bien que malgré tout les enjeux sont ailleurs. Donc il y a des choix qui sont faits au niveau du conseil d'administration, on s'y est invité l'an dernier, on a porté donc ce genre de discours pour bien leur faire comprendre que l'avenir de cette entreprise c'était quand même la recherche. C'était la fondation, on va dire, de l'entreprise, c'est celle-là. S'il n'y a pas de recherche derrière, il n'y aura pas de nouveaux médicaments et il n'y aura pas de nouveaux produits à développer, il n'y aura pas de produits à synthétiser et à créer dans les industries du groupe Sanofi, et que donc ça va être une cascade assez délétère pour les emplois en France derrière. Voilà, on l'a dit, on l'a porté à plusieurs endroits et on continue à le faire, mais c'est compliqué. Des fois, on a l'impression de parler un peu dans le vide. Voilà.
Et du coup, c'est quoi les prochains rendez-vous là? Donc, il y a le 15, autour du 15 avec la directe. Est-ce qu'il y a des manifestations, des rassemblements prévus bientôt?
Alors aujourd'hui, on va pas vous dire. Nous, on attend déjà, le point essentiel, c'est le retour de la directe, donc, qui se fera à partir du 10 mars. Et à ce moment-là, on statuera sur, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire après. Donc, comme on vous l'a déjà dit, au niveau du CE, il y a des moyens qui ont été pris via la délibération pour aller en justice. Nous pensons, il y a une réflexion qui est portée aussi au niveau de Suchimi, à savoir s'il n'y aura pas un soutien de notre part aussi pour y aller. Hein. Enfin, a priori, oui. Mais de toute façon, ces décisions-là, elles vont être prises, je dirais, au sein du CE, hein, et au niveau des organisations syndicales aussi, et avec les salariés. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est se donner les moyens de pouvoir continuer la lutte, voire aussi sur le plan juridique. Ces décisions-là seront prises, je dirais, suite. Il faut d'abord attendre, effectivement, si la directe valide ou non ce PSE, puisque, suivant sa réponse, eh bien, notre attitude sera dicté par ça. Quoi. C'est-à-dire, si effectivement la directe ne valide pas le plan, donc...
Ça change tout, quoi.
Oui.
Voilà. Bah, très bien. Eh bien, écoutez, on va devoir arrêter là. Merci Laurence Millet et donc Denis Murat, donc syndicaliste Sud Chimie chez Sanofi Toulouse.
Et continuez à nous tenir au courant.
On suivra cette affaire.
On suivra l'affaire. avec vous si vous le souhaitez.
Et n'hésitez pas à nous rappeler donc autour du 15 dès qu'il y a du nouveau.
Merci à vous.
Merci et bon courage.
Bon courage.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci donc Laurence et Denis de Sanofi. On va poursuivre tout de suite avec un tout autre sujet, avec l'association Compagnie Ici, Là-bas et Ailleurs. Et on va parler, je crois, Majid, de cinéma. Et on commence en chanson.